Vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 4h du matin ici à Paris, 2h de moins en temps universel.
Simon Bourtembourg.
À la une de cette édition, les Mauritaniens appelés à départager 7 candidats à la présidentielle. Le chef d'État sortant et président en exercice de l'Union africaine brigue un deuxième mandat. La campagne législative s'est refermée hier soir en France. Le premier tour est organisé ce dimanche dans l'Hexagone, mais on vote déjà aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie dans un climat tendu, nous le verrons. À la une de l'actualité également, une nouvelle fuite de pétrole en Équateur. Des hydrocarbures ont contaminé l'un des principaux affluents de l'Amazone. Et puis, hier soir, du rugby et le stade toulousain qui a écrasé l'Union Bordeaux-Bègles pour conserver son titre de champion de France. Les bureaux de vote ouvrent dans un peu moins de 5 heures en Mauritanie. 1 900 000 électeurs sont appelés aux urnes pour la présidentielle. 7 candidats briguent donc le siège de chef de l'État. Les électeurs auront le choix entre une alternance démocratique ou la continuité puisque le président sortant est candidat pour un deuxième mandat. Léa Lisa Westerhoff nous racontait hier soir les derniers détails de l'organisation du scrutin alors que la campagne se refermait.
Dans la capitale, le déploiement du matériel électoral, les urnes, les bulletins de vote, les PV et l'isoloir étaient en cours et devraient se terminer vers 20h, selon une source au sein de la commission électorale. Même scénario dans le reste du pays, le matériel a été acheminé dans les 15 wilayas, l'équivalent des départements il y a une semaine, pour être distribué dans les différents lieux de vote aujourd'hui. Un véritable défi logistique vu la taille de la Mauritanie et ses 4504 bureaux de vote au total. L'un d'entre eux, proche de la frontière algérienne, a même été approvisionné en matériel électoral par avion militaire, selon la CENI. Enfin, 14 bureaux de vote jugés trop proches de la frontière avec le Mali ont finalement été déplacés un peu plus loin pour des raisons sécuritaires. Les opérations électorales devraient donc commencer demain matin dès 7h. Quelques 13 500 personnes ont été déployées par la commission électorale pour les superviser. Chacun des 7 candidats a également la possibilité de mandater un représentant. La commission électorale assure que le président sortant, Mohamed Ould Razouani, mais aussi les deux grands opposants, le candidat du parti islamiste Tawassoul, Hamadi Sidel Mokhtar et Biram Dahabey, d'arriver deuxième lors de la dernière présidentielle, devraient avoir des représentants dans presque tous les bureaux de vote. Léa Lisa Westerhoff, Nouakchott, RFI.
Les résultats officiels sont attendus au plus tard dimanche, mais des estimations devraient être publiées dans les prochaines heures. Les Iraniens votaient hier pour choisir leur nouveau président. Des élections anticipées après la mort le mois dernier du président Ebrahim Raisi dans un accident d'hélicoptère. Pour ce premier scrutin depuis les législatives du mois dernier, l'abstention pourrait une nouvelle fois être importante. En France, je vous le disais en titre, l'essentiel du premier tour des législatives se jouera demain dimanche, mais en raison du décalage horaire, on vote déjà dans certains territoires ultramarins comme en Nouvelle-Calédonie. Le scrutin est là organisé en ce moment et dans un contexte particulièrement tendu et sous haute surveillance. Pierre Olivier.
Partout sur l'archipel du Pacifique, les rassemblements sont interdits jusqu'à 20h dimanche. Le couvre-feu entre 20h et 6h est quant à lui prolongé jusqu'au 8 juillet, le lendemain du second tour des élections législatives. Des mesures qui interviennent alors que la participation attendue pour le premier tour s'annonce importante en Nouvelle-Calédonie, en proie à des violences depuis 2 mois sur fond de réforme du corps électoral. Un regain de tension avait par ailleurs été observé après le transfèrement en métropole il y a 8 jours de 7 militants indépendantistes. Sur l'archipel, alors que les écoles sont fermées depuis 7 semaines pour raisons de sécurité, certaines rouvriront pour servir de bureau de vote. Mais encore faudra-t-il que les électeurs puissent y parvenir, car de nombreux barrages routiers bloquent toujours les principaux axes de circulation. En Nouvelle-Calédonie, la campagne pour les législatives a été quasi inexistante. Presque aucun panneau électoral n'a pu être installé. Au total, près de 4000 policiers et militaires sont déployés sur le territoire et tenteront d'assurer la bonne tenue du scrutin.
Pierre-Olivier, alors qu'au niveau national, la campagne électorale pour ces législatives s'est refermée hier soir à minuit. Il s'agit d'une priorité pour les électeurs britanniques, mais l'écologie n'a pas été beaucoup abordée ces dernières semaines. À quelques jours des législatives au Royaume-Uni, beaucoup regrettent que l'immigration, la fiscalité et les services publics aient dominé la campagne. C'est le cas de ces électeurs déçus qu'a rencontré pour nous Emeline Vin.
Quelle proposition pour une transition énergétique? C'est le critère pour Sheldon à l'occasion de ces élections.
Je veux m'assurer qu'on protège la planète. Il n'y a pas d'économie sur une planète morte. J'ai toujours cela en tête quand je vote. Même si mon vote ne sert à rien, j'envoie un signal.
Le système électoral défavorise les petits partis, dont les Verts, la seule voix qui porte sur l'écologie, regrette Gay.
Le Parti Vert n'a pas beaucoup d'élus et donc peu de couverture. Il y a bien eu une polémique sur les montants que le Parti travailliste compte investir, mais les conflits entre les chefs de parti ont éclipsé les vrais sujets.
Le Parti travailliste qui devrait remporter ces élections s'en tient à la promesse d'une compagnie nationale d'énergie renouvelable et l'isolation des logements. Mais le professeur de sciences politiques Justin Fischer ne s'étonne pas de ce survol par les partis.
Les sujets environnementaux sont très populaires chez les électeurs en période de prospérité économique, mais tendent à disparaître en cas de difficulté. Cela dit, les propositions des travaillistes et des libéraux démocrates en matière de planification économique prennent en compte l'environnement.
Selon les sondeurs de YouGov, l'environnement fait partie des 5 priorités des Britanniques, derrière l'économie, la santé et l'immigration. Emeline Van Londres, RFI.
Joe Biden tente de rassurer face à ceux qu'il appelle à se retirer. « Je ne débat pas aussi bien qu'autrefois », a reconnu le président américain, qui assure tout de même pouvoir poursuivre son action à Washington. Il faut dire qu'après les pénibles 90 minutes passées jeudi soir face à Donald Trump, les doutes resurgissent dans le camp présidentiel. Si à 81 ans, Joe Biden ne semble pas laisser entrevoir la possibilité d'un retrait, de très nombreux éditorialistes américains et le prestigieux journal le New York Times l'appelle pourtant à se retirer. Une nouvelle fuite de pétrole en Équateur. Des hydrocarbures ont contaminé le fleuve Napo, l'un des principaux affluents de l'Amazone dans le nord-est du pays. Pour l'instant, l'ampleur des dégâts n'est pas connue, mais des communautés locales sont déjà affectées. Les précisions de Pauline Glaise.
Des taches huileuses et des boulettes noires à la surface d'une rivière. La vidéo est diffusée sur Twitter par un avocat équatorien qui lutte depuis des années contre la pollution générée par l'activité pétrolière. Vidéo envoyée par une communauté locale. La compagnie nationale Petroecuador a reconnu elle-même une rupture sur des conduites de pétrole dans la province amazonienne d'Orellana. Des barrières avaient été posées pour tenter de retenir les hydrocarbures qui s'étaient déversés. Mais se justifie Petroecuador, de fortes pluies dans la zone ont entraîné une partie de l'or noir vers la rivière Napo. L'entreprise assurait jeudi soir mettre en place de nouveaux barrages pour tenter d'empêcher l'avancée des traces d'hydrocarbures. Les fuites accidentelles d'oléoducs sont récurrentes dans les zones pétrolières équatoriennes. Il reste très difficile de savoir avec précision quelles quantités se sont déversées dans la nature. En 2020, l'équivalent de 15 000 barils avait contaminé un autre cours d'eau.
À Pauline Glaise, 46 personnes ont été arrêtées de manière arbitraire dans le cadre de la pré-campagne électorale au Venezuela. Campagne présidentielle, voilà ce que dénonce en tout cas une ONG locale alors que le scrutin doit avoir lieu dans moins d'un mois. Le pouvoir vénézuélien a quant à lui accusé l'opposition de préparer des actes de violence contre le président Nicolas Maduro. Du sport pour finir ce journal et une fois n'est pas coutume du rugby avec le 23e titre en top 14 pour le Stade Toulousain. Trophée de champion de France conservé pour les Rouges et Noirs qui se sont imposés face à l'Union Bordeaux-Bègles sur le score sans appel de 59-3. Un record de points largement battu donc hier soir sur la pelouse du Vélodrome. Écoutez la réaction du capitaine du 15 de France Antoine Dupont à l'issue d'un match qu'il n'imaginait pas se finir sur un pareil score.
Non, évidemment que non. On savait les qualités de cette équipe de Bordeaux qui, malgré le fait qu'ils ne soient pas forcément expérimentés de ces finales, elle a donné tout ce qu'ils avaient, surtout sur l'entame de match. On avait ciblé cette partie-là du match et il s'avère qu'on a vraiment très bien débuté, je pense, dans l'intensité, dans le calme aussi, dans la maîtrise. On avait une très bonne défense, on a récolté des pénalités. Et surtout, on a pris vite le score et après, c'est toujours compliqué de revenir dans des matchs comme ça, dans des matchs de phase finale quand on est mené au score. On est encore un groupe jeune, mais on commence à avoir un peu de bouteille, quelques cheveux blancs pour certains. Et l'expérience de ce genre de match, et je pense que c'est ce qui nous a guidés, ce qui nous a portés aujourd'hui. C'est-à-dire une envie, un enthousiasme énorme, mais mais aussi, comme je disais, un froid, un calme qui, on le sait, nous permet de gagner les matchs de ce niveau. Et je pense qu'on l'a montré sur l'entame de match qui est quasi parfaite.
Le Toulousain Antoine Dupont qui met désormais le cap sur les Jeux Olympiques. Le Français rejoint en effet pour l'occasion l'équipe de France de rugby à 7. RFI, il est 4h bientôt passé de 10 minutes. Ici à Paris, 2h de moins en temps universel. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.